C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir? The Cure?
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour.
Bonsoir.
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 Bonsoir. C'est l'heure du Canu Info.
Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi. Bonsoir et bienvenue dans ce Canu Info du mercredi 24 avril 2019. Il est 19h passé de 2 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Alors on va commencer par une brève. Figurez-vous que... Alors bon, peut-être que si vous avez déjà eu des infos depuis ce matin, vous êtes déjà un petit peu au courant de la base de l'histoire. Nathalie Loiseau, tête de liste La République En Marche pour les élections européennes, et qui se présente par ailleurs comme le principal barrage à l'extrême droite, eh ben, il s'avère, ça a été dévoilé par Mediapart, il s'avère qu'elle a été candidate à des élections étudiantes, à l'époque où elle était à Sciences Po Paris, candidate sous l'étiquette de l'UED, qui veut dire Union des étudiants de droite, et qui était un syndicat qui avait été formé après la dissolution du GUD. Alors le GUD, vous voyez ce que c'est un truc, c'est de l'extrême droite, dur quand même. Elle affirme qu'à l'époque, elle n'avait pas perçu la couleur politique de ce syndicat. Autant dire qu'elle était, ma foi, bien naïve. Elle était quand même en cinquième année de Sciences Po, et donc elle se met sur une liste sans vraiment capter qui est cette liste et qui est sur cette liste. Alors, c'est sorti aujourd'hui. Du coup, elle explique d'une part que c'est ça qu'elle n'avait pas capté. D'autre part que, de toute façon, on a le droit d'évoluer, blablabla, blablabla. Et elle finit par nous dire, le fait de conduire la liste que je conduis aujourd'hui, donc La République En Marche, avec pour ambition de faire reculer l'extrême droite en France, est cohérent avec ce que je pense. Alors voilà, nous juste, on voulait redire qu'on pense que c'est effectivement relativement cohérent de passer de l'extrême droite à la droite libérale, par ailleurs dure sur les questions d'immigration, qu'on se rappelle qu'elle soutient quand même qu'elle représente quand même à ces élections le parti qui est aujourd'hui à la tête de la France et qui fait partie de tous ces gouvernements qui, par exemple, sont prêts à rejeter à la mer des bateaux avec quelques dizaines de migrants dedans, plutôt que de risquer de les laisser s'installer sur notre sol national.
Et continuons une petite info monde de merde. C'est le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui était en visite le 16 mars dernier sur le site de ST Microelectronics. Tu vois ce que c'est?
Non.
En fait, c'est une entreprise qui développe, fabrique et commercialise des puces électroniques. Et il a tenté de mobiliser les troupes des soldats high-tech en disant dans moins de 10 ans. Donc je le cite, nous verrons les vainqueurs et les vaincus. Les vaincus seront obligés d'importer toutes les technologies sensibles, dépendront des technologies américaines ou chinoises. Les vainqueurs du 21e siècle auront leur propre technologie. C'est maintenant que ça se passe. Ici, nous pouvons réussir et nous allons réussir. Fin de la citation. Ben voilà encore une autre raison pour être sceptique des développements technologiques capitalistes et mondialisés, non?
Radio Canu. Canu Info.
mercredi.
Écoutez,
à tout moment, ils peuvent venir te prendre pour les moments qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que tu sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Je vais vous diffuser un reportage qui a été fait hier à la manif au CRA, Centre de Rétention Administrative de Saint-Étienne, de Saint-Exupéry. C'était en fin de journée et il y avait environ 60 personnes.
Italiano, parli qualcuno in italiano?
Italiano?
Sì. Italiano, parli qualcuno?
Sì, parlo italiano, sì.
Allô?
Si, dimmi, parla.
Nous sommes rassemblés devant le CRA de Saint-Exupéry en soutien à tous les prisonniers. En réponse à l'appel au secours d'une personne détenue et en soutien à tous les prisonniers. Un rassemblement spontané devant le CRA de Saint-Exupéry s'est fait ce mardi 23 avril. Samedi 13 avril, des personnes détenues ont tenté de s'évader du CRA de Saint-Exupéry pour échapper à l'enfermement et à la répression policière et aux conditions déshumanisantes qu'elles subissent. Parmi ces personnes, 3 ont réussi à s'échapper, 4 ont été rattrapées, tabassées et placées en garde à vue. Elles ont été déférées devant le tribunal aux comparutions immédiates ce jeudi 18 avril. L'audience a finalement été reportée au 3 mai. Dans l'attente de cette prochaine date, le juge a décidé de les enfermer à la prison de Villefranche-sur-Saône. Suite à ces tentatives d'évasion, les flics se sont vengés en réprimant les personnes emprisonnées au CRA. Ils ont infligé des punitions collectives, gazage, tabassage, maintien en cellule. Une personne détenue a tenté de se suicider. Les personnes à l'intérieur se sont révoltées et l'une d'elles a lancé un appel au secours et à mobilisation qui a été diffusé le lendemain. En réponse à cet appel, nous sommes venus soutenir tous les prisonniers en nous rassemblant spontanément devant le CRA aujourd'hui. À bas les CRA, à bas les frontières et soutien à tous les prisonniers.
Allô?
Allô?
Lo dici che abbiamo persone 60 giorni, 50 giorni, non li lasciano assieme con la famiglia, abbiamo famiglia fuori. Io avrò un bambino e la mia moglie che è malata avrà 33 kg.
Ça va faire 50 jours qu'il n'a pas de nouvelles de sa famille. Alors qu'il a des enfants.
Ils sont malades toutes les enfants et les moins femmes.
Et il a une femme aussi, qui est très malade.
Siamo dentro molte persone, quasi 60-80 persone. C'è una signora qua che è incinta, che è caduta in tribunale, però non l'hanno lasciato uscire fuori.
C'est une personne de 70 ans qui est tombée au tribunal et ils l'ont même pas laissé sortir du centre de rétention. Vai.
La polizia picchia a noi.
Ils sont en train de jouer avec eux comme des ballons en fait. Ils les prennent comme des objets et ils jouent avec eux. Les policiers.
Mettono gas quando vogliono loro, quando si fa casino, perché tutti i giorni c'è casino qua dentro, si tagliano le persone, non dormono. Polizia lo picchiano a noi, mettono gas e tutto quello.
Ils les frappent et ils leur mettent des casques comme des animaux.
Comme des animaux, bravo.
Il a dit qu'il voulait mourir lui parce qu'il en pouvait plus.
che stiamo facendo tutti i giorni casino, tutto il giorno non c'è possibilità di uscire, mia moglie non c'è da mangiare, non c'è bambino, niente a casa, se volete do anche il numero di telefono, mando i documenti con il fax, vi date un numero, io mando i documenti con il fax, vedi tutti i documenti di mia moglie che sta a 33 kg.
Ça va faire un moment qu'ils essayent de faire ce qu'ils peuvent à l'intérieur, sauf qu'ils n'arrivent rien à faire et ils n'en peuvent plus. Et là, ça va faire 33... Ouais, il fait 33 kilos. S'il y a quelqu'un qui veut parler, on vous écoute.
Parce que tu vois, ici la mer, madame, ça fait 3 semaines que je suis là, tu vois, je suis pas bien, je suis malade, tu vois. Il y a des trucs bizarres ici, tu vois, je ne peux pas dormir. C'est des goulards par terre, des goulards par sous, madame, tu vois. C'est la mer, parce que
tu vas être dans la
gare. Et la police, même tout à l'heure, la police m'a tapé et tout, tu vois. Ils ont manqué de nourriture, ils ne sont pas mérité manger, ils ont rien, ils ont enfermé.
Il a eu une opération, pourquoi ?
Il a une opération, il a mis 4 couteaux, il a mis 4 couteaux, disons, tu vois, il a une opération.
Et ils l'ont frappé ?
Normalement, il a rendu à l'hôpital et il joue pas les pieds, tu veux pas aller à l'hôpital. Et normalement, il a rendu à l'hôpital, madame.
Comment ça se passe à l'intérieur ?
En fait, ça veut dire que si je veux dire, il y en a une femme enceinte aujourd'hui, peut-être au 7e mois. En fait, il est tombé par terre, il est malade, il était au tribunal, il est tombé au tribunal là-bas, et il n'est pas liberté en fait. J'ai une amie là, il a des enfants, il a tous, et ça fait 7 ans là en France, son famille l'a laissé là-bas avec les enfants, lui il est en France, ça fait 45 jours, en fait. Ça, je sais pas comment ça se passe là.
Ça fait 45
moi, je suis célibataire, ça fait 11 ans que j'étais en France. Je suis là, ça fait 35 jours. Et c'est pas possible, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Même les gendarmes, ils sont pas très très gentils avec les gens. Ils poussent les gens. Le matin, il a poussé une monsieur là de Macédonie. Il a poussé pour il est malade. De rien du tout. 10 heures, il vient, il ferme toute la chambre. Tu peux pas sortir. C'est qui veut parler? En fait, les gens qui viennent là, il y en a même des récipicés. C'est-à-dire qu'il a droit à rester en France. Oui, il y en a plein de gens qui sont les enfants, qui sont nés en France, là, il y en a de 10 ans, il y en a, je ne sais pas ce qui se passe, moi je n'ai jamais vu ça. Hein. C'est pareil, ils séparent les familles. Père, le monsieur le ramène ici, en fait, et après, les enfants, ils laissent
solidarité avec les prisonniers, monde entier. Sol, solidarité avec les prisonniers. And a lot of people here, and they are crazy, and
we live our family and we hear again they are making us to frustrate more and they're making the frustration more out of us. Everyone of us is not a criminal. We are not a criminal. We are not a drug addict. Okay, we are the struggler to find something for family and ourselves, and they keeping us here and like honest. So we really need help for you people. I turn in the court and they said I have to stay here for another 28 days. I don't know the reason they are keeping me, and there's nothing that they want to apply for asylum and they keep me for another time.
Someone want to speak in English or in French?
I'm sorry, I'm speaking English to you now, and the problem here is too much. Because many people here, they want to talk, but it's like they can speak French and they speak another language from other countries, Romania, Albania, Bulgaria, many countries, Chinese, Tunisia, many countries. We are here, many people, problem is here, we don't know how to explain the problem. Okay, even me, I'm talking to you.
Yeah.
That problem is here. So this is the condition we're in. We need help and support. We have. I have my wife pregnant, and she has done it, and they keep us here almost 10 days. We are taking keeping, I don't know the reason they keep it all very, very low, so we have a problem. My wife is here, she's pregnant, she's seven more pregnancies, she is here with me, and they keep in the prison almost 10 days. We are here, no reason. There's no treatment. Even the medicine that they give it to us is not a good medicine. When you compete for your health, when they give you medicine, they're giving you crazy medicine. So many people here, they are getting crazy because they go to the hospital where they have here, they'll give you crazy medicine. If you compete for any system, they'll give you medicine that will make you more crazy.
Okay.
Voilà, c'était hier à Saint-Exupéry. Désolé pour la qualité du son. En fait, ce qui se passait comme dispositif là-bas, c'est que il y avait un téléphone les détenus étaient appelés par téléphone et amplifiés par le mégaphone. Donc le téléphone était amplifié, donc ça fait cette qualité. Mais on trouvait ça important de diffuser quand même ces paroles de personnes retenues au centre de rétention. Et aussi, donc, comme vous l'avez pu entendre à la fin, donc, le fait qu'il y ait le rassemblement à l'extérieur, ça a créé aussi un peu de chaos à l'intérieur, qui a été réprimé donc dans les gaz. Après, il n'y a pas eu de ce qui a été dit. Il n'y a pas eu plus que ça. Les gens sont fait un peu taper, mais pas complètement tabasser. Et le rassemblement à l'extérieur s'est fini par un gros gazage des 60 personnes présentes pour que les personnes partent de devant le centre. Et des flics qui coursent et qui tabassent un peu avec leur matraque les gens qui courent moins vite. Voilà.
Ça sache.
Alors, pour continuer, nous allons faire un récapitulatif des moyens mis en place par l'Europe pour contrôler les navires d'ONG dans le contexte actuel de la politique des politiques migratoires. Et en fait, c'est un article qui est paru dans Basta le 17 avril. Donc la semaine dernière, et en fait il fait un récapitulatif, moi j'ai trouvé vraiment intéressant. Il se situe bien sûr du côté des ONG officielles, mais il rappelle pas mal de la logique, en tout cas des partis européens à l'œuvre de droite et d'extrême droite. Donc cet article il s'intitule « Comment l'extrême droite européenne a quasiment réussi à faire interdire les sauvetages de réfugiés en Méditerranée ». Et donc en juin 2018, dès la formation du gouvernement de coalition entre la Ligue du Nord, donc l'extrême droite et le mouvement 5 étoiles, Matteo Salvini décide de fermer les ports italiens aux bateaux des organisations non gouvernementales de sauvetage. L'Italie refuse alors le droit d'accoster à l'Aquarius, affrété par l'ONG française SOS Méditerranée, et au Lifeline d'une association allemande, alors qu'ils ont recueilli à bord des dizaines de réfugiés. Sur le front juridique, les attaques contre les ONG ont commencé depuis 2 ans. Donc c'est au printemps 2017 que le procureur de Catane en Sicile déclare soupçonner une collaboration entre des organisations de sauvetage et des trafiquants d'êtres humains. Sans aucun élément de preuve, l'affaire s'est finalement dégonflée. Les menaces de poursuites judiciaires et de mise sous séquestre des navires se sont cependant poursuivies. Et en août 2017, le parquet de Trapani, toujours en Sicile, saisit la navire Luventa de l'ONG allemande Jugendrettet. Et les raisons invoquées, c'est des soupçons de collaboration avec des passeurs lors des 3 opérations de sauvetage en 2016 et en 2017. L'ONG avait refusé avec d'autres de signer le code de conduite que les autorités italiennes voulaient leur imposer. Le texte leur demandait notamment de s'engager à ne pas entrer dans les eaux territoriales libyennes. Et en mars 2018, c'est le navire de l'organisation espagnole Open Arms qui est placé sous séquestre par les autorités italiennes. Le procureur de Catane leur reproche d'avoir refusé de remettre aux gardes-côtes libyennes plus de 200 réfugiés secourus en mer. C'est une enquête pour organisation criminelle d'aide à l'immigration illégale qui est alors ouverte contre le capitaine du navire, le coordinateur et le directeur de l'ONG. Quelques mois plus tard, en novembre, la justice italienne déclare soupçonner l'Aquarius de traitement illégal de déchets toxiques. La menace d'un placement sous séquestre plane, mais l'accusation ne tient pas. La même année, le bateau de SOS Méditerranée reste coincé pendant des semaines dans le port de Marseille parce qu'il vient de perdre son pavillon, le pays de rattachement du bateau. Le Panama lui retire l'immatriculation suite à une plainte de l'Italie juste avant. Gibraltar a fait de même. Résultat, entre fin septembre et fin novembre 2018, plus aucun bateau d'ONG de sauvetage n'était présent au large de la Libye. Et tout récemment, Début février 2019, le parquet de Catane a bloqué plusieurs jours l'un des navires humanitaires de Sea-Watch. Il venait de débarquer avec 47 réfugiés secourus au large des côtes libyennes, après avoir été coincés des jours sur le bateau au large, parce que Salvini leur refusait l'accès au port. Le ministre menace aussi l'ONG de poursuites en justice. Le parquet a finalement considéré qu'aucun délit n'a été commis par l'ONG, mais ordonne des vérifications techniques, ce qui immobilise le navire. Sea-Watch a dénoncé un blocage politique injustifié, puis c'est le Mare Jonio, affrété par le collectif d'activistes italiens Méditerranéa, qui est saisi pendant 8 jours, mi-mars, au port de Lampedusa. Il venait de secourir 49 personnes. Le zèle des autorités italiennes pour bloquer les navires inspire aussi d'autres pays. Sea-Watch rencontre des difficultés avec les Pays-Bas, le pavillon sous lequel ces bateaux naviguent. Après des travaux d'entretien, les autorités néerlandaises ont empêché leur bateau Sea-Watch 3 de retourner en zone de sauvetage. Les Pays-Bas invoquent des préoccupations pour la sécurité des personnes secourues si le navire doit rester longtemps en mer, faute de port prêt à les accueillir, comme cela arrive de plus en plus souvent. Une troisième ONG allemande, celle qui affrète le bateau Lifeline, a fait l'objet d'un long procès à Malte. En juillet 2018, les autorités maltaises ont laissé accoster le Lifeline avec plus de 200 personnes réfugiées, après une semaine d'errance en Méditerranée. Puis Malte a mis le navire sous séquestre et engagé un procès contre le capitaine. L'accusation, ne pas avoir correctement enregistré le bateau. Le jugement doit finalement être rendu le 14 mai prochain. En Espagne aussi, les conditions se durcissent. En janvier, les autorités maritimes espagnoles ont refusé au navire d'Open Arms de repartir en mer. Il venait d'accoster dans un port du sud de l'Espagne avec plus de 300 réfugiés fin décembre. Donc, depuis juin 2018, la Libye dispose aussi de son propre centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer, qui s'appelle CROSS, un centre de coordination pour les sauvetages maritimes. La mise en place d'un tel centre sur le sol libyen fait partie du plan de la Commission européenne de 2017 pour réduire les flux migratoires en Méditerranée. Et avec la création d'un CROSS à Tripoli, les embarcations peuvent être renvoyées vers la Libye. Alors même que depuis début avril, des combats se déroulent au bord de Tripoli entre les forces de l'armée nationale libyenne autoproclamée du général Haftar et les milices alliées au gouvernement reconnues par la communauté internationale. Certains affrontements ont lieu également à proximité des centres de rétention des services de l'immigration à Kaser Ben Gassir et à Ain Nazara, où quelques 1300 personnes réfugiées et migrants sont actuellement détenues. En 2017, l'Union européenne a alloué 46 millions d'euros d'aide aux gardes frontières et gardes côtes libyennes. On le répète souvent dans Scanu Info et on continuera à le répéter. En février, la France leur a même offert des navires. L'objectif de ces généreux dons est de maintenir les migrants de l'autre côté de la Méditerranée. En 2018, plus de 2200 personnes ont péri en tentant de traverser entre la Libye et l'Italie, mais aussi entre le Maroc et l'Espagne. Au moins 350 sont morts depuis janvier, selon, ça c'est les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Fin mars, l'Union européenne a décidé de retirer ses bateaux de l'opération Sophia des eaux méditerranéennes. Des navires militaires français, italiens, allemands, espagnols ou belges placés sous commandement franco-italien. Même si ce n'était pas leur mission principale, qui était de lutter contre les passeurs, ces navires avaient secouru environ 45 000 personnes depuis 2015. Sur la seule période allant de 2015 à 2017, à avril 2017, les différentes ONG de sauvetage en Méditerranée ont de leur côté sauvé plus de 80 000 personnes. Donc, actuellement, plus de bateaux pour Sea-Watch, ni SOS Méditerranée. Le Lifeline est toujours bloqué à Malte, le navire de Jugendrettet est en Italie et celui d'Open Arms en Espagne. Le Mare Jonio opère toujours, heureusement, et le navire Alan Kurdi de Sea-Hay, une autre organisation allemande, a secouru le 4 avril 64 personnes au large de la Libye. Le gouvernement italien a déclaré qu'il ne laisserait pas accoster. Il a fallu 10 jours 10 jours et 2 évacuations pour urgence médicale pour que Malte laisse enfin le Alan Kurdi accoster. La France et l'Allemagne se sont engagés à accueillir une partie des 64 réfugiés. Toute l'Italie n'est pas sur la ligne de Salvini. Il y a des maires de gauche qui s'opposent publiquement à cette politique de fermeture des ports et au décret adopté en novembre qui ampute les droits des exilés. En mars, il y a eu une manifestation antiraciste qui a réuni 200 000 personnes dans les rues de Milan. La justice italienne a même ouvert une enquête contre Salvini pour séquestration pour les 46 réfugiés de Sea-Watch à qui il avait refusé le droit de débarquer fin janvier. En Allemagne, il y a des dizaines de villes qui se sont déclarées ports sûrs ces derniers mois à l'appel de l'association Seebrücke. Ces communes se sont engagées à accueillir des personnes secourues en Méditerranée ou à soutenir les ONG de sauvetage. Bref, c'est quelques anecdotes, c'est pas pour dire du tout que ça ne suffit pas, il faut continuer à se bouger et s'engager, mais c'est quand même des choses qui se font par rapport à tout ça.
Et ces tout derniers jours, en tout cas après l'apparition de l'article que tu viens de nous raconter, Castaner nous a fait une petite déclaration où il expliquait que les ONG qui sauvaient des gens en Méditerranée étaient en réalité les complices des passeurs.
Faut que ça sache.
Et puis pour finir ce « Faut que ça se sache », j'ai trouvé sur le site du CRIC, qui est le site d'info grenoblois, qu'il va y avoir un débat le 6 mai à Grenoble, des ponts, Europe des ponts, pas des murs, quelle politique d'accueil des migrantes. Et du coup, bah, c'est un appel à une discussion, notamment leur postulat, c'est dire à quelques semaines des élections au Parlement européen, il nous a semblé utile de nous informer davantage sur les politiques migratoires de l'Union européenne, Frontex, ah, je n'arriverai pas à le dire ce soir, Frontex, les hotspots, le rétablissement des frontières. Et de s'interroger sur les changements radicaux qui seraient nécessaires pour que chacun, chacune, ait le choix de rester dans son pays ou de partir dans un autre, et s'il le souhaite, s'y installer. Bref, en tout cas, ça a l'air d'être des gens très critiques des politiques migratoires et qui ont envie de discuter. Et ce soir, à Grenoble, il y a une réunion de la coordination contre les frontières. Bien sûr, on est à Lyon, on ne va pas y aller, mais c'est pour donner une idée de comment des réseaux ils peuvent un peu s'organiser. Nous sommes divers collectifs et individus de l'agglomération grenobloise. Nous pensons qu'il serait utile de se coordonner dans l'agglo face aux politiques anti-migratoires et à la fermeture des frontières. Nous souhaitons aussi être plus efficaces face aux politiques racistes et impérialistes du gouvernement en étant capables de mutualiser nos outils et nos moyens. Partage d'infos, outils juridiques, organisation d'actions communes, etc. Nous souhaitons que cette coordination soit à l'image de nos luttes et qu'elle s'inscrive dans des principes antisexistes, antiracistes et non paternalistes. C'est pourquoi nous serons attentifs à toutes ces dérives dans notre mode de fonctionnement et nos actions. Nous souhaitons penser ces rencontres pour que tout le monde puisse lutter, exilé ou non, et se sente le plus à l'aise possible, dans des traductions, des tours de parole, etc. Contre les politiques anti-migratoires inhumaines, organisons-nous. Donc ces personnes ont un Facebook, c'est coordination-compte-les-frontières au pluriel 38. Et bien évidemment, ce texte, je l'ai lu en français, mais il est en trois langues, arabe, anglais et français.
Ça sache.
On part au Soudan maintenant avec la marche d'un million qui est prévue pour demain. Alors le journal L'Observateur Palga commence son article sur le Soudan comme ça. Le général l'a promis, il veut donner une suite favorable à la principale revendication des insurgés en transférant le pouvoir au peuple dès cette semaine. Il en a pris l'engagement au cours de sa première intervention télévisée depuis la destitution le 11 avril dernier d'Omar El-Béchir. Transférer le pouvoir au peuple, oui, mais à quel peuple exactement? Là est la question, car le problème avec ces mouvements populaires, nous dit toujours l'Observateur Palga, c'est que la queue est souvent bien longue de millions de manifestants, mais ils n'ont hélas pas toujours une tête, en ce cas, en tout cas pas une seule. C'est le cas en Algérie où la situation née de la démission d'Abdelaziz Bouteflika n'évolue pas vraiment. C'est également le cas au Soudan. Le journal dont il est question dans cet article, c'est le général pardon, dont il est question dans cet article, c'est le général Abdel Fattah al-Burhan, qui est aujourd'hui à la tête du Conseil militaire de transition. Alors, petit rappel des épisodes précédents quand même. Suite à une contestation populaire massive, Omar el-Béchir, qui était président du Soudan depuis 30 ans, est chassé du pouvoir. C'était le 11 avril. Chassé et mis en résidence surveillée, en fait en prison, par ceux qui la veille encore étaient ses proches, mais qui sentent que le vent est en train de tourner. Un conseil militaire de transition est mis en place, avec à sa tête, donc à la tête du pays, le général à ce moment-là, le général Ibn Auf. Ce qui ne semble pas vraiment satisfaire les manifestants. Il faut dire que ce... est-ce qu'il y a des gaps dans ma voix ou c'est juste mon casque? Okay. Il faut dire que ce Ibn Auf a un sacré CV derrière lui. Il a été, alors sous la présidence d'Omar el-Béchir, hein, il a été chef du renseignement et de l'état-major de l'armée soudanaise. Il a joué un rôle dans la répression au Darfour. Depuis 2015, il a été ministre de la Défense et puis finalement premier vice-président du pays. Les manifestants, alors on se souvient peut-être du 11 avril, hein, c'était quand même il n'y a pas si longtemps, c'était il y a moins de 15 jours, ravis du départ du président, mettent quand même quelques heures à comprendre qu'ils et elles sont en train de se faire arnaquer. Et les manifs repartent directement de plus belle. Ibn Auf cède dès le lendemain, le 12 avril donc, et passe la main à ce général Abdel Fattah al-Burhan, qui est encore aujourd'hui à la tête du conseil militaire de transition, et donc comme je disais, du pays. Alors lui a pu y rester un peu plus longtemps, enfin en tout cas jusqu'à maintenant. Disons que même si les gens ont envie qu'il se barre aussi, c'est pas au point de ce Ibn Auf, puisque ce Abdel Fattah al-Burhan, bah d'un côté il était juste beaucoup moins connu, et puis il traînait quand même énormément moins de casseroles. Il y a un manifestant qui explique à un moment à un reporter de RFI, le nouveau venu Abdel Fattah, Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, parce qu'alors selon où on le trouve sur internet, la manière dont son nom est ordonné change d'un article à l'autre. Mais donc ce nouveau venu est beaucoup moins marqué politiquement, ce n'est pas un pilier du régime, il ne s'est pas rendu responsable de violations des droits de l'homme au Darfour comme les autres. Bon, malgré tout, les gens dans la rue continuent donc depuis le 12 avril d'affirmer jour après jour qu'il n'est pas question de se laisser gouverner par l'armée. Le général al-Burhan a promis dimanche de passer le pouvoir aux civils dans la semaine, et bon, on est déjà mercredi. Alors c'est sans doute pour l'aider à tenir cette promesse que l'ALC, l'Alliance pour la Liberté et le Changement, et l'APS, l'Association des Professionnels Soudanais, qui est, semble-t-il, un peu à l'origine de la contestation populaire, en tout cas du mouvement de maintenant, que ces deux organisations parlent aujourd'hui de grève générale et appellent pour demain jeudi à une manifestation monstre, une marche d'un million, c'est comme ça que ça doit s'appeler. Bon, d'ores et déjà, mardi, un train est arrivé à la capitale de la ville de Atbara. Un train rempli à ras-bord de manifestants. Alors vraiment, les manifestants sur le toit en mode on arrive, en mode un peu triomphal, quoi. Et aujourd'hui, une caravane d'une centaine d'autres personnes qui arrivent à la capitale sont arrivées de la ville de Madani. Enfin, vraiment, les gens se rassemblent et arrivent en masse en vue de cette marche d'un million. Bon, pour l'instant, le général al-Burhan propose une négociation au chef des deux organisations qui sont le plus des organisations formées d'opposition. Ces deux organisations en ont accepté le principe, mais c'est pas pour autant que... disons que l'espoir est que ça se fasse sous la pression de la manifestation gigantesque de demain. Et puis, qu'est-ce que devient, avant de terminer là-dessus, on va s'intéresser à ce que devient Omar el-Béchir. Donc, il est en prison, et puis voilà qu'on vient de trouver un gros tas de thunes dans le... Enfin, on vient de... Ça date d'il y a trois jours. On vient de trouver un gros tas de thunes dans le palais présidentiel. Et je cite, pour terminer, le commentaire de ce journal, l'Observateur Pahalga, c'est 7 millions d'euros, c'est 350 000 dollars et les 5 milliards de livres soudanaises, soit au total la rondelette somme de 100 millions d'euros, avaient été découverts au domicile du despote déchu. Vraie découverte ou grosse manœuvre, puisque quand même, c'est en fait c'est ça qu'il faut comprendre tout le temps dans ce qui se passe au Soudan, dans ce qui se passe en Algérie, c'est comment est-ce que les gens essayent, en se débarrassant d'une personne, de garder le pouvoir avec plein de gens qui espèrent juste être moins connus et pouvoir se maintenir et pouvoir garder les rênes entre les mains. Donc voilà, l'observateur Palga continue. Une chose est sûre, Abdel Fattah Bourane et de nombreux autres galonnés de la haute hiérarchie militaire, la paix il y a encore peu dans ce bol de lait qu'ils exhibent maintenant à la presse comme un trophée de guerre.
Canu Info. Et on va finir ce Canu Info en vous proposant un truc à lire par les oreilles. Voilà un audio kiosque qui se lance. C'est chouette, non ? Quand vous en avez marre de lire ou d'écouter des livres audio, vous pouvez écouter des brochures audio.
Waouh !
C'est trop bien. Et issu donc des brochures disponibles sur le site InfoKiosk et autres trucs entre guillemets subversifs. Et donc c'est Mixcloud, mixcloud.com/audiokiosk. Alors pour l'instant, je suis allé voir, il y a une brochure de 18 minutes qui est vraiment chouette. Et j'imagine qu'il va y en avoir d'autres prochainement.
On peut, si on n'a pas noté le nom du site, on peut y accéder par infokiosque.net.
Je ne suis pas sûr.
Ah.
Je sais pas. Ah, c'est marrant, je sais pas s'il y a un lien. Mais c'est mixcloud.com et audiokiosque/audiokiosque. Voilà, et ben on vous dit à la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver tous les Canu Info sur notre blog des Canu Info. Et le prochain Canu Info, c'est jeudi, demain à la même heure, 19h.
Oui, mais la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on sera le mercredi 1er mai. Alors, le matin, manif. Le midi, repas de quartier sur la place Satonnet. À partir de ce moment-là, et toute l'après-midi, le très fameux punch de Radio Canu, qui fait qu'on ne peut pas vous promettre entièrement d'être disponible pour faire les infos mercredi soir.
C'est ça. En tout cas, venez nombreuses. Nous vous invitons à manger et à boire des coups sur la place Satonnet. Après la manif. Donc un mercredi, en tout cas, et au soleil.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.